It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Et souvent, on vous a parlé ici de Maxime Dupuis, de son train de vie un peu dispendieux, du fait que, il ne sait plus où foutre son fric. Et là, à midi, on mangeait ensemble et il nous a quand même dit, et Adrien Yo, qui réalise cette émission, en est témoin, « je commence à regarder le prix des jets privés. »
Non. Oh non.
Je commence à regarder le prix des jets privés. Donc là, on en est là, vous me dites. Stream Team, Eurosport, ça doit bosser, ça... c'est des petites gens, des petites mains, on n'est pas des restas. Alors moi, je ne suis pas une resta, c'est sûr, mais alors Maxime, je peux vous dire, il commence à regarder le prix des jets privés.
Non, je ne regarde pas le prix des jets privés, alors là, on est sur un deux tiers de mensonge.
Non, c'est vrai ou c'est pas vrai, Adrien, qui est là ?
Non.
Tu nous as dit...
J'ai pas dit je commence à regarder. Ouais. J'ai dit j'ai reçu un mail une fois.
Ouais, mais déjà, moi je les reçois pas ces mails-là, donc déjà. Oui, voilà.
Bah, tu sais pourquoi je l'ai reçu peut-être ? J'y ai pensé moi. J'ai essayé de réfléchir pourquoi je recevais. En fait, je vous explique. Je reçois un mail avec une compagnie qui propose des vols en jet privé. Voilà.
Et donc c'est que tu fais partie de leur portefeuille potentiel de clients.
Mais pose-toi la question du pourquoi je fais partie de leur portefeuille.
Bah parce que t'as du fric ?
Non. Je sais pas. Non. Alors d'ailleurs, je vous le dis, hein, si vous voulez être riche, faut pas être journaliste. Bon. Ça c'est une chose, il faut le dire.
Sauf toi. De telle exception qui confirme là.
Non. Alors, j'ai essayé de réfléchir. Alors voilà, ils donnent les prix et c'est vrai que j'étais étonné. Je pensais que c'était plus cher, un vol en jet. Voilà. Mmh. Mais j'ai pas pris de vol en jet. Je voyage en économie, comme tout le monde.
Commence à devoir se justifier comme ça,
parce
que
là,
tu
me fais passer pour un, je sais pas. J'ai pas les termes. Je vais pas dire les termes. Ça peut être très très sympa. Donc bref. Non, mais je me suis dit, je me doute peut-être d'où ça vient, parce que figure-toi, parce que Martin là, il fait le malin. Mais quand il y a des voyages, quand on partait en Coupe du Monde et tout ça, qui c'est qui faisait les papiers et tout ça ?
Bah oui, c'était toi, bien sûr.
C'était moi.
Oui, oui.
Et il est arrivé, Martin, qu'on vole notamment une fois en jet.
Ah oui, c'est vrai, pour la Coupe du Monde 2018.
Ouais, quand on est revenu de Yekaterinbourg, après France-Pérou. Ouais. Voilà. D'ailleurs, il y avait un de nos confrères qui n'était pas très rassuré dans le jet.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et donc, je me dis que peut-être qu'il y a des bases de données et que je l'ai récupéré via ça, voilà.
Ça rame, là. Mais Tony Estanguet là.
Non, je vois pas pourquoi. Alors non, je n'ai jamais pris de jet.
Maxime, honnêtement.
Quoi ?
Même si c'était dans tes, tu le prendrais pas le jet quand même.
Non, parce que
c'est un sens écologique.
Aller à Saint-Tropez, je vois pas l'intérêt déjà.
Ouais, mais tu peux aller à New York en jet. Hein. Tu peux aller à Londres aussi.
Là, ça doit être cher quand même.
Tu peux aller.
Ah non, mais Londres, faut aller en Eurostar. Il y a pas de discussion. Là.
Merci.
Et
Maxime.
C'est même pas. Là, j'ai au-delà de l'écologie. C'est juste que c'est beaucoup plus malin de partir faire 2h15 d'Eurostar et d'être dans le centre de Londres à Saint-Pancras. Voilà.
Très bien.
Alors, tu m'as coupé parce que j'allais revenir sur cette émission de la semaine dernière qui était assez formidable
avec
Titouan,
avec
qui a trouvé le slogan de l'émission au bout de 7 ans, c'est-à-dire l'émission
qui
où on dit
les termes. Exactement.
Voilà. Donc, Titou.
Est-ce qu'on va dire les termes aujourd'hui ?
Je pense bien qu'on va dire les termes parce que la semaine dernière, on a dit les termes sans s'en rendre compte. Donc finalement, peut-être qu'on dit les termes très souvent.
Ouais.
On se mouille.
C'est vrai, on se mouille. Ah oui, ça c'est sûr.
On dit les termes, on se mouille.
On se mouille, tout à fait. Ouais, termes, mouille, voilà, d'accord, on est d'accord, ok. Heureusement que t'es pas payé à la blague parce que c'est pas le jet que tu prendrais, là, je peux te dire. C'est le vélo et tous les jours. Hein.
Alors, on va dire les termes et on va parler, évidemment, là c'est compliqué, j'ai l'impression qu'on en parle toutes les semaines, mais je vois pas comment on pourrait faire autrement. On va évidemment parler de l'Olympique Lyonnais qui a encore perdu, qui a perdu à Lens 3-2, la fameuse défaite de l'espoir, qui est une connerie monumentale comme
d'habitude.
Merci
de dire.
Une défaite du désespoir à Marseille 3-0 et une grosse rechute. L'OL est toujours dernier. Et on va essayer de définir on va jouer les pompiers, de se dire quel est l'étage à sauver en premier et en gros, où est l'urgence principale à l'Olympique Lyonnais. Ça brûle de tous les côtés, c'est pas évident.
Est-ce que l'urgence, ce sera de recruter Hugo Ekitike, l'attaquant du PSG qui ne joue plus depuis la première journée de championnat. Et ça, c'est un sujet Maxime Dupuis. Alors, si vous ne connaissez pas les sujets Maxime Dupuis, restez pour ce deuxième sujet où Maxime, là, pour le coup, je pense qu'il va dire les termes. Équitiqué, symbole d'un marché qui ne tourne pas rond. Voilà, c'est estampillé Maxime Dupuis.
Troisième sujet, l'Olympique de Marseille. Qui va mieux? 3 victoires de suite à domicile. Mais est-ce que l'OM est bel et bien guéri? Est-ce que l'OM est bel et bien lancé? C'est ce dont on parlera dans la troisième partie de l'émission. Émission qui est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, évidemment. Je ne vous les cite pas, vous les connaissez.
Des étoiles,
des commentaires. Comme ça, ça nous fait des intros ou des outros faciles. Et puis, on aime bien discuter avec vous. Et dernière chose, vous retrouvez évidemment les extraits de l'émission sur eurosport.fr tout au long du week-end.
On y va ?
On y va, Martin. Et on va parler de l'Olympique lyonnais. Deux défaites de suite avec Pierre Sage qui avait redonné un peu de, non pas de lustre, mais un peu de vie à cette équipe à Lens. Et puis à Marseille, la redégringolade, ça ne va pas du tout. L'OL est toujours dernier, c'est très inquiétant. Avec 7 points, on se sauve que très rarement. On va essayer de définir un peu quelle est l'urgence principale à Lyon. Est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est le mercato à soigner? Ou est-ce que c'est de relancer les talents et les cadres actuels de l'Olympique lyonnais? Martin, quel est ton avis?
L'urgence, c'est le coach, parce que tu ne peux pas changer 23 joueurs. Malheureusement pour l'Olympique lyonnais, ça aurait été une solution plutôt, à mon avis, efficace. L'urgence, c'est le coach. Pour moi, et je pense que ça va faire hurler pas mal de gens, mais à Lyon, il faut un mec, un entraîneur qui soit habitué à ces défis-là. Il faut prendre l'OL pour ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un dernier de Ligue 1. Aujourd'hui, Lyon est dernier de Ligue 1. Il est dans une situation d'urgence extrême. Et je pense qu'il faut se défaire de tout ce qui accompagne l'Olympique lyonnais. C'est-à-dire un club qui n'est pas à la place où il doit être, un club qui est européen. Il faut décorréler ça de la situation habituelle de l'OL. Il faut prendre Lyon tel qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que ferait un 20e, enfin un 18e, pardon, c'est une Ligue 1 à 18 maintenant. Qu'est-ce que ferait un 18e de Ligue 1 dans cette situation-là? Eh bien, on ferait appel à des entraîneurs qui ont fait leur preuve dans le passé pour sauver des clubs. C'est pour ça que moi, je pense, et je sais que ça va faire hurler du côté de Lyon, je sais que ça va faire hurler plein de gens, moi, je pense qu'il faut du Comboiré, du Antonetti, des entraîneurs qui sont habitués à ces défis-là. Bien sûr qu'à Lyon, on ne s'attend pas à avoir peut-être des coachs de ce standing-là, parce que c'est Lyon, et qu'on n'imaginerait jamais voir Antonetti ou Comboiré, qui sont plutôt habitués à du ventre mou, moins, on va dire, hein, du Nantes, du Strasbourg pour leur dernier club. Mais Lyon a besoin de ces entraîneurs-là, de ces entraîneurs qui ont déjà une personnalité, de ces entraîneurs qui connaissent sur le bout des doigts la Ligue 1, contrairement à Fabio Grosso, des entraîneurs qui sont faits pour aller batailler, parce que ça va être une bataille jusqu'au bout. Et c'est pour ça que pour moi, l'urgence aujourd'hui, c'est l'entraîneur. Genesio, pour moi, parce qu'on sait que c'est un nom qui revient beaucoup, pour moi, il y aurait un risque de fracture dans le vestiaire, parce que oui, Genesio, ça ferait plaisir à la Lacazette, Tolisso et je sais pas, et les anciens Lyonnais et Lopez. Mais aujourd'hui, on réduit le vestiaire lyonnais à ces mecs-là. Or, aujourd'hui, 80% du vestiaire lyonnais ne connaît pas Bruno Genesio. Et je pense qu'il faut aujourd'hui un entraîneur vierge, un entraîneur qui n'est pas de passif avec ce club et ses joueurs, et quelqu'un qui vienne faire sa révolution à lui. C'est pour ça que pour moi, Genesio n'est pas la solution et qu'il faut aller chercher du vrai bon entraîneur de Ligue 1 pour cette mission.
Moi, je vais procéder par élimination parce qu'en fait, il y a le feu à tous les étages et je ne vois pas par où commencer et je ne vois plus très bien où sont les fondations de ce club. L'entraîneur, oui, sans doute, mais j'ai l'impression qu'il a plu le Pierre Sage à John Textor, qui lui a démarré par deux défaites, donc la défaite à Lens, soi-disant encourageante, la défaite à Marseille, beaucoup moins encourageante. Et évidemment, la suite, c'est de se dire, s'ils font un bon résultat, en gros, à Toulouse, si j'ai bien compris, c'est qu'il... une victoire face à Toulouse, ça le conforterait jusqu'à la trêve. Ça, c'est des trucs qui sont toujours stupides, parce que s'il y a match nul, qu'est-ce qu'ils font? Et puis, s'il gagne à Toulouse, mais qu'il y a deux défaites derrière, ça aura servi à rien. Donc on va partir du principe qu'il reste avec Pierre Sage, même si je suis d'accord avec toi, il y a peut-être maintenant besoin d'un pompier, d'un Duprat, encore une fois ça va faire hurler, mais d'un type qui connaît ces missions-là, c'est-à-dire la mission coup de pied au cul et la mission meneur d'homme en fait, remettre les gens avec...
Chef de meute.
Mais ce qui est compliqué, c'est d'être le meneur d'homme dans un club qui n'est pas calibré pour ça, avec des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer le maintien et qui le prennent plutôt mal. On pourra parler sans doute du comportement des cadres qui n'a peut-être pas été très sain avec Grosso, on peut peut-être parler de l'Alexandre Lacazette qui avait déjà participé à faire virer Boss. Donc c'est pas aussi simple que ça. On aurait pu dire que le mercato c'est l'urgence, mais le problème du mercato c'est quand on voit les noms qui circulent, c'est une catastrophe et j'ai très peur. Alors c'est nos confrères de l'équipe qui dévoilent ce matin, enfin on le savait déjà pour Lucas Perry, il voudrait, dans le cadre d'un transfert interclub, intergroup, Eagle Group, ramener le gardien de Botafogo pour le mettre en concurrence avec Lopez.
Ça, je comprends.
Mais à quel moment l'OL a besoin de mettre Lopez en concurrence aujourd'hui
et de prendre le risque de le fragiliser, parce que c'est ça le pire. Lopez, aujourd'hui, c'est peut-être ton meilleur joueur, et en tout cas, c'est ta plus grande garantie sur ces dernières années. C'est le mec qui te sauve les miches, et là, tu vas lui foutre dans les pattes un concurrent, tu vas en faire un numéro 1 bis, et du coup, tu risques de fragiliser les deux et de peut-être ton point fort de les gratigner.
Qu'est-ce qui est la preuve de ça? Alors, pareil pour Adrielson, qui viendrait de Botafogo, un défenseur, qui lui, selon l'équipe, n'est pas un titulaire en puissance. Si tu n'as pas même pas un titulaire, ne l'amène pas. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, et ça, on pourra en parler des heures, ces clubs-là, dans les groupes comme ça, sont là, enfin les gros groupes sont là pour magnifier des projets individuels. C'est-à-dire que là, ils calculent la carrière et au moment, ils pourront le vendre cher, ce joueur-là, et en faire un actif. Ils oublient l'intérêt collectif et là, l'OL va en pâtir. Puis après, les autres noms dont qu'on voit, c'est Benrahma, Ramazani, je ne suis pas hyper convaincu non plus des profils. Et j'en viens donc au dernier point sur lequel j'appuierai le plus, mais alors là, je n'ai pas la baguette magique, c'est relancer évidemment les talents ou les cadres de l'OL. Et notamment, parce qu'eux sont déjà là, ils les ont.
Là, tu vas passer en mode énervé, Maxime.
Et là, Alexandre Lacazette, par exemple, 27 buts l'an dernier, il en est à 3. Il est parti pour faire une saison à 9 buts. Ce serait, alors il faudrait regarder dans le championnat de France, dans l'histoire, je pense que ce serait un cas rarissime de joueur qui passe d'un tel niveau d'efficacité, sans blessure, imaginons, aussi bas. Lacazette, il est perdu sur le terrain, il est seul, on l'a vu à Marseille, il y a une frappe de loin à un moment de 35 mètres qui part dans les nuages. C'est compliqué, je pense que lui, il a la tête à l'envers. Tolisso, j'y crois plus tellement parce qu'on parle de ses blessures aujourd'hui, mais ses blessures, elles existent depuis le Bayern, donc il n'y a pas de raison que ça change. Et évidemment, il y a le cas Ryan Cherki.
Ah !
Alors, on en parle ici toutes les semaines. Il a encore fait une semaine cataclysmique. Et lui, vraiment, je sais pas quoi faire, en fait. Tout simplement parce que lui, je pense vraiment que le problème n'est pas dans les pieds et dans la tête. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est de lui dire « lâche le ballon, joue pour les autres, soit collectif, soit moins centré sur toi ». Et c'est ça qui est terrible, c'est que sur le papier, le talent, il est là au moins sur 3 joueurs, Lopez, Lacazette, Cherki. Mais ce sont des joueurs, hormis Lopez, qui jouent à l'envers. Et là, vraiment, l'urgence, je dis bien l'urgence maintenant, avant Toulouse et avant le reste, c'est de les remettre à l'endroit parce qu'à 7 heures, il n'y a pas de mercato. Et arriver à la trêve avec 7, 8 points, 9 points ou 10 points, c'est quasiment la descente, il faut le dire. Donc là, l'urgence, pour moi, elle est là, le mercato, ce sera après.
Oui, et puis croire que le mercato va sauver l'Olympique Lyonnais, ça reste quand même une douce chimère. Mmh. Il y a 50 millions d'euros, ok, potentiel à dépenser. Mais qu'est-ce que tu vas recruter au mercato d'hiver? C'est un mercato d'hiver, donc c'est un mercato de seconde main. On nous a parlé d'Ekitike, par exemple. Donc oui, tu vas recruter soit des joueurs qui ont approuvé, donc qui partent d'un club plus petit pour briller à Lyon, soit des joueurs qui sont en situation d'échec, type Ekitike. Tu prends un joueur en situation d'échec, un joueur donc en crise de confiance, qui va débarquer dans un environnement morose comme celui de l'Olympique Lyonnais, bon courage. Et moi, j'ai qu'un exemple récent d'un mercato qui a sauvé un club, mais pour mieux le couler ensuite, c'est Saint-Etienne en janvier 2018, quand ils recrutent Subotic, Mvila et Debuchy. Ça a marché, mais ça a flingué les verts sur plus long terme parce que ça a offert des salaires qui ne correspondaient plus au standing du club. Et le club, on sait où il est aujourd'hui. Donc, ça ne marche pas. Et je pense que, là encore, en fait, depuis le début, Lyon se berce d'illusions. Au début, c'était « Non, mais on est 20e, on est 18e, je ne vais pas y arriver. On est 18e, mais on est Lyon, ça va marcher. L'Europe n'est pas si loin. Cacré parlait d'Europe il n'y a pas si longtemps encore dans ses conférences de presse. Et là maintenant, ok, on est 18e. Notre équipe, finalement, elle n'est pas si forte que ça. Mais attendez, c'est pas grave. On a le Joker Mercato, on a du fric. Donc ça va le faire. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec les illusions lyonnaises parce qu'on est dans une année d'illusions côté Lyon. Et c'est exactement ce que nous disaient certains coachs qui ont vécu cette situation, c'est-à-dire de jouer le maintien avec des équipes qui ne sont pas formatées pour ça. Le plus dur, c'est Guy Lacombe qui nous disait ça avec le PSG ou Reynald de Noix avec le FC Nantes. Le plus dur, c'est que tout le monde prenne conscience qu'on est la plus mauvaise équipe de Ligue 1 aujourd'hui. Plus mauvaise équipe de Ligue 1. On joue le maintien. Il y a notre avenir qui est en jeu. Stop, arrêtons les illusions. Lyon est dans la panade comme pas possible. Ça a beau être Lyon, ça ne suffit pas.
Lyon serait les stacks aujourd'hui?
Ouais.
Il serait déjà condamné. Ouais. On ne poserait plus la question. Dire bon, c'est mort, 7 points, c'est mal barré.
Ou Angers l'année dernière, c'était ça.
Oui,
à peu
Angers,
près.
Arles-Avignon, tous ces clubs, Le Mans il y a bien longtemps, tous ces clubs qui font un démarrage catastrophique. là, on se dit, parce que comme tu dis, on se berce d'illusions, oui, il y a du talent, mais oui, c'est vrai. Mais la difficulté, je l'ai un peu dit juste avant, Alexandre Lacazette, toute sa carrière, il l'a bâti en haut du tableau.
Ouais.
Bon, après, avec des saisons moins bonnes, évidemment.
Puis il avait des ballons, là, il en a plus.
Il a des ballons, il a joué à Arsenal. Alors, Arsenal ne jouait pas le titre, mais c'est quand même, vous jouez quand même des choses intéressantes. Là, il se retrouve dans une situation où, bon, voilà, la relégation. Alors, heureusement qu'il y a cet attachement à Lyon, peut-être qui fait qu'il ne lâchera pas tant qu'il sera là. Mais je pense que psychologiquement, c'est compliqué parce que c'est presque un métier de jouer le maintien. Et quand ils ont fait venir un Mama Baldé, quelque chose comme ça, il y avait cette idée-là aussi de dire, on va voir, bon, déjà, que c'est un mercato au rabais. Mais de jouer avec des joueurs qui ont l'habitude peut-être de mettre le bleu de chauffe et de se battre en bas du classement. Et pour ce qui est des 50 millions... Il va falloir voir comment ils vont être dépensés aussi, parce que bon, Ekitike, ce serait, je pense, un prêt, j'imagine, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le payer à ce prix-là. Mais si c'est pour refiler de l'argent à Botafogo, histoire d'aider Botafogo, c'est un coup d'épée dans l'eau. De toute façon, le verre est dans le fruit depuis le début.
Mais oui.
L'histoire Textor est mal démarrée. C'est un rachat qui est fait pour la cause de la multipropriété. Et comme pour tout club en multipropriété, ça ne se terminera pas bien. C'est ainsi. Je ne dis pas qu'ils descendront, mais il faudra attendre avant de revoir un bel OL.
Et moi, je pense que cette chimère mercato coûte des points à l'OL. Je m'explique. Quand tu es manager, Maxime le sait. Non, mais quand tu es manager, là, ça fait un mois et demi, en gros, que Textor dit « Non, mais attendez, les gars. Effectivement, on va attendre le mercato, ça va nous sauver. » Mettez-vous à la place des joueurs qui jouent aujourd'hui et qui se disent « De toute façon, je suis bon, je suis mauvais. Ils vont recruter à mon poste. » En termes de management pour flinguer tes joueurs, il n'y a pas pire que de dire « De toute façon, on va sortir l'artillerie lourde cet hiver parce que là, ce qu'on a, effectivement, c'est tout naze. » Moi, je pense qu'en termes de… De toute façon, Textor, il a tout faux. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, je pense qu'il tire une balle dans le pied de son club. Et qu'aujourd'hui, voilà, si ça continue comme ça, Lyon, il va tout droit, Maxime.
Lyon, il va tout droit. Ça va être un des feuilletons passionnants de la deuxième partie de saison et de la fin de l'hiver. Et avant tout, on va parler… Je suis perdu.
Il est perdu. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il arrive,
non, Maxime. Je cherchais un truc en même temps.
T'as été dissipé. T'étais dissipé, t'es allé sur ton portable.
Parce que je cherchais
un truc. Parce que ceux qui nous écoutent, là, t'étais sur ton portable, tu cherchais quelque chose. T'étais dissipé.
Voilà.
Et je t'ai donné le ballon au mauvais moment.
C'est ça, exactement.
C'est une question de timing.
Mais c'est rare.
Et t'as essayé de t'en sortir. Ouais. Et j'ai vu tes yeux qui crient au secours.
Avant le deuxième sujet, je cherchais quelque chose, une précision que j'ai trouvée, donc tout va bien. Et j'avais bon pourtant, mais j'avais un petit doute.
D'accord, mais ton problème, Maxime, c'est que tu doutes trop de toi, Maxime. Fais-toi confiance.
Oui,
prends ton envol, Maxime.
Ça y est, c'est le moment.
Prends ton envol. Deuxième sujet, justement, on va parler d'Hugo Ekitike, qui figure parmi les cibles, si on en croit l'équipe, de l'Olympique Lyonnais. Hugo Ekitike, je le rappelle, qui depuis le début de saison a joué exactement 8 minutes, c'était lors de la première journée face à Lorient. Ekitike qui ne joue pas, Ekitike qui est puni, Ekitike qui prend 600 000 euros.
Ah, j'avais 400.
Ah, 400 ?
400 mensuels.
Bon, 400 mensuels, moi c'était peut-être du brut, je sais pas.
Ça doit être du brut.
Mais en tout cas, voilà, Ekitike qui ne joue plus. C'est un joueur qui avait marqué 10 buts en Ligue 1 à 19 ans.
24 matchs.
C'était une vraie promesse du football français, une vraie promesse qui est en train de s'éteindre à feu doux. Ekitike, symbole d'un marché qui ne tourne pas rond. Ekitike, c'est un cas qui t'énerve et qui t'horripile, Maxime.
Ouais, ça m'énerve parce qu'en fait, je trouve que cette histoire Ekitike, Reims, PSG porte en son sein tous les défauts et tous les abus du football moderne. Et il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de coupable, sinon tout le monde. Je m'explique. Ekitike au PSG, c'est l'histoire d'un club super puissant, surpuissant.
Trop puissant.
Qui s'offre un jeune joueur prometteur dont il n'a pas besoin. S'il faut le dire, on va dire oui, c'était une doublure. Oui, non. Ekitike n'a pas le profil d'une doublure. C'est un jeune joueur avec des promesses qu'on a vu jouer à Reims, qui avait vraiment quelque chose de différent. On sait très bien qu'en arrivant là-bas, au PSG, il ne jouera pas parce que l'année où il arrive, évidemment, il y a Mbappé, Messi et Neymar. Et rien que faire sortir l'un des trois 20 minutes, c'est un problème. Donc on peut imaginer qu'Ekitike ne jouera pas ou peu. C'est aussi l'histoire d'un club moyen, Reims, qui prête son joueur la première année, parce que ce n'est pas un achat, c'est un prêt.
C'est vrai qu'il a été acheté cet été, en fait.
Voilà, il a été acheté cet été pour 35 millions. Et à l'époque, il y avait une offre de Newcastle à 41 millions. Donc on peut aussi se demander, mais pourquoi ? C'est bizarre quand même cette histoire. Refuser 6 millions de Newcastle pour prendre 35 du PSG, mais l'année d'après. Alors l'année d'après, Caillot l'explique en disant, le président Caillot explique, parce qu'ils avaient les comptes qui étaient bien cette année-là, qu'ils préféraient garder l'argent pour l'année d'après, ce qui est une bonne stratégie. Mais n'empêche, c'est pas très clair. C'était aussi, ça a aidé un peu le PSG, c'est des relations à la Ligue. Donc déjà, il y a pour moi ce petit verre dans le fruit qui pose un peu problème. Il y a aussi un joueur qui fonce droit dans le mur. Il est ébloui par quoi ? Par le PSG. Il a 21 ans. Il a mis 10 buts en 24 matchs, tu l'as dit, et par un salaire de 400 000 euros par mois qui défie toute concurrence, et pas seulement en France.
Et qui ne correspond pas à son niveau aussi.
Et qui ne correspond pas à son niveau. Mmh. Ça, c'est un joueur qui arrive dans un club où il y a Messi, Neymar, Mbappé, où il ne va pas jouer et qui va finalement prendre aussi les mauvaises habitudes. On a beaucoup parlé de son comportement, qu'il a voulu à feu faire le joueur de très grand club, un peu copier Mbappé, un peu copier Neymar et finalement se perdre. Le salaire, il n'est pas à la hauteur de ce joueur-là et vice-versa. Parce que c'est 400 000 euros, alors pour le PSG, c'est une paille, en Ligue 1, hors Paris Saint-Germain, c'est le sixième plus gros salaire. Donc déjà, ça le met hors de portée de n'importe quel club. Si Ekitike avait fait preuve plus de jugeote et peut-être aussi ses conseillers ou même Reims, il faut le vendre où Ekitike ? À Marseille ? À Lyon ? Mmh. Un club avec une marche un peu plus haute qui le permette de progresser. Or, aujourd'hui, il se retrouve coincé parce qu'en plus,
il a pas voulu partir.
C'est le PSG a voulu le larguer. Ils voulaient Kolo Muani. Ils ont fait du chantage, il faut le dire. Oui, si tu pars pas, on va pas pouvoir avoir Kolo Muani. Donc, il faut que tu partes dans le transfert à Francfort. Résultat, il n'est pas parti. Mais comme on s'en doutait, Kolo Muani est venu pour 90 millions. Et là, le PSG, qu'est-ce qu'il a fait ? Via Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi, ils sont mis en colère tout rouge contre lui. Ils ont dit, tu veux pas partir à Francfort ? Eh ben, on te fout au banc du club. Et ça, c'est dégueulasse. Ça me rappelle ce qui avait été fait à Ben Arfa. On peut penser ce qu'on veut des joueurs. C'est impossible de faire ça parce qu'en fait, c'est comme ils ont les moyens, ils se permettent de mettre les joueurs de côté. Il a 21 ans. Enfin, je veux dire, c'est un joueur qui est en croissance footballistique. On peut se comporter un peu différemment avec un joueur comme ça, même s'il a fait ses erreurs aussi. Je trouve que c'est assez moche. Et ce que je trouve assez moche aussi, et là, c'est pas le PSG, mais c'est aussi une dérive. Où est l'UNFP là ? Où est la défense du joueur ? Personne ne défend un joueur de 21 ans qui ne joue pas depuis 3 mois. Il a ses torts. Mais je trouve dégueulasse qu'on mette un joueur comme ça au banc.
Ça me rappelle une histoire. C'est un joueur que le PSG, cet été, lui a dit « pars, sinon tu ne joues pas ». Ah bah finalement, lui, il joue, tu vois. Il s'appelle Kylian Mbappé. Comme quoi, il y a…
Ah oui, deux poids, deux mesures.
Deux poids, deux mesures. Enfin, un poids, deux mesures. Et je trouve que… Voilà, parce que qui dit que tu n'en as pas besoin, bah voilà, tu es fort avec les faibles et faible avec les forts. Et qui dit que le problème de la Ben Arfaisation de sa carrière… Bah, c'est que ça arrive 10 ans avant Ben Arfa. Ouais. C'est-à-dire que là, on est dans un moment critique d'une carrière, 21 ans. Là, à un moment, il faut jouer. Il faut se rappeler de quelque chose. Avant qu'il arrive à Paris, donc c'est une des très grandes promesses du football français, l'été prochain, il y a les JO. Bah, dans un monde normal, il doit être l'attaquant de cette équipe de France Espoir, puisque quand on voit ce qu'il a fait face à Reims, il est éligible. C'est peut-être l'un des plus grands moments de sa carrière et il va s'en priver à cause d'un mauvais choix de carrière, peut-être aussi parce qu'il n'a pas voulu partir à Francfort, sans doute parce que Paris veut le punir. Mais là, c'est-à-dire que avant tout, moi, c'est la première chose, c'est qu'il est en train de pourrir sa carrière. Vous vous rendez compte, il va rater les Jeux Olympiques qui se passent sur son sol. Et demain, il va prendre une voie. Enfin là, il est en train de prendre une voie, compris Draxler, compris Kurzawa, compris Ben Arfa, et regardez les carrières derrière. Alors Ben Arfa a vaguement rebondi à Rennes, mais enfin bon, quand t'es au PSG, généralement, voilà, c'est jamais un bon rebond derrière, et quand il y a un rebond, regardez Kurzawa, ça fait combien de temps qu'il joue pas ? Il est là, il prend son salaire, mais il a renoncé à être un joueur de football. Et Kitike, à 21 ans, il pourrait encore rendre des services énormes au football français, pourquoi pas, on sait pas. Mais... À son âge, à 19 ans, faire ce qu'il a fait, c'était quand même assez extraordinaire. Et là, on est en train de le flinguer, tout simplement. Donc moi, j'ai qu'une hâte, c'est que vite, il trouve une porte de sortie parce que c'est un gâchis monumental.
Ah, sur le PSG, lui reproche de ne pas partir et de s'asseoir sur un salaire de 400 000 euros qu'il a consenti à lui donner. Enfin, c'est pareil, comme tu l'as dit, pour Draxler, etc. Et c'est vraiment dommage parce que moi, je le dis parce que c'est un joueur que j'aime bien. L'avoir vu jouer à Reims, on sent tout de suite qu'il a un petit quelque chose de différent. Il a une vraie qualité. Et là, on se prive d'un joueur comme ça parce qu'il a fait un mauvais choix de carrière, parce que le PSG a fait un mauvais choix aussi, et parce que c'est le football moderne, les dérives du football moderne, d'empilement de joueurs comme ça. Ils n'ont pas besoin. Alors, c'est une autre échelle, évidemment, mais rien qu'aujourd'hui, Gonçalo Ramos plus Colomwani. Ils ont un joueur à 80 millions, un autre à 90, et un des deux joueurs est quasiment à chaque fois assuré de ne pas jouer. Non, mais c'est pas possible, je veux dire. Il devrait y avoir des... non pas de salary cap, mais des... Enfin, je veux dire, c'est 170 millions sur deux joueurs et la moitié qui reste sur le banc tout le temps. Je comprends pas la logique. Et on se prive, évidemment, le football se prive aussi de très bons joueurs. Et je le répète, et Kitike, on parlait tout à l'heure de Lyon. Je ne sais pas si c'est le joueur dont Lyon a besoin. Mais moi, j'ai envie de le revoir sur un terrain. Et c'est vrai qu'il y a une petite dérive là-dessus sur les joueurs aussi, un peu différemment. Parce qu'on pourrait... Alors, ça n'a rien à voir. Parce que vous allez me dire, ils n'ont pas le même âge. Un autre joueur qui s'appelle Hugo Lloris. Il faut se souvenir que ça fait 4 mois qu'on ne le voit plus, Hugo Lloris. Parce qu'il n'a pas voulu partir. Alors lui, il est à un stade différent de sa carrière. Mais aujourd'hui, il y a ce côté un peu... c'est une dérive qui n'existait pas, en fait, avant.
Ouais, on se prive, on met à la cave des joueurs qui pourraient rendre des grands services. On passe à Marseille, Maxime ?
Ouais, on va passer à l'Olympique de Marseille. Qui va mieux ? L'Olympique de Marseille qui a enchaîné 3 victoires de suite à domicile. Alors, c'est une tarte à la crème qu'on n'entend plus, mais avant, on disait c'est très dur d'enchaîner 2 victoires de suite à domicile. Bah, l'OM a fait 3 contre l'Ajax, contre Rennes et donc contre Lyon. L'OM va bien mieux, mais l'OM est-il... guéri pour autant, Martin ?
Non, il n'est pas, enfin, il n'est pas guéri. Moi, j'attendrai. Ces 3 victoires, il y en a 2 face peut-être aux 2 clubs les plus en crise du football européen. L'Ajax et Lyon. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont plus en crise que ces deux-là. Je ne dis pas que c'est facile de les battre. En tout cas, ces deux clubs n'étaient pas dans les meilleures dispositions possibles pour faire un résultat face à Marseille. Et après, il y a Rennes qui n'était pas non plus dans une spirale folle et qui en plus a joué à 10 tout le match. Donc, et puis encore, ce sont des équipes qui ouvrent plutôt le jeu, donc qui correspondent bien à Marseille. Donc ce qui est sûr, la vraie bonne nouvelle, c'est que Marseille fait un rapproché. Mais Marseille est à 6 points du top 4. Marseille a validé sa qualification en Ligue Europa, même si on ne sait pas encore s'il y aura un tour supplémentaire ou pas. Quoi qu'il en soit, voilà, en termes, on va dire mathématiques, Marseille, oui, s'est relancé. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour dire que Marseille s'est réveillé, parce que c'était les adversaires idéaux. Voilà pour se refaire une santé. Après, ce que j'ai aimé moi dans cette séquence là c'est que Gattuso a prouvé qu'il n'était pas un entraîneur dogmatique, et ça me plaît. C'est à dire qu'il a vu des potentielles erreurs qu'il avait fait et il les a réglées. On avait dit ici la semaine dernière, ce serait quand même pas mal de faire jouer Vitinha et Aubameyang ensemble. Je dis pas qu'on voilà, on n'a pas révolutionné le truc, mais en tout cas il a essayé, ça a marché. Et peut-être qu'il a trouvé quelque chose, finalement, en associant ces deux mecs-là. Autre chose, il est passé à une défense à 3. Et ça a vachement bien fonctionné contre Lyon. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement de voir le cheminement, la trajectoire. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire que Marseille est complètement guéri, complètement réveillé. En revanche, on peut se dire qu'il y a des leviers qui ont été actionnés et qui amorcent peut-être un vrai renouveau. Ça attend une vraie confirmation, mais en tout cas, il y a une étincelle.
Il y a quelques semaines, Pablo Longoria disait que l'OM avait besoin d'une série. Oui, ça c'est sûr, pour remonter, il vaut mieux la faire. Ça ressemble à un début de série, 3 victoires de suite. Alors, il y en a une évidemment en Ligue Europa contre l'Ajax, qui ne compte pas pour le championnat, mais surtout 2 en Ligue 1. Alors moi, Marseille-Rennes, j'étais pas très convaincu et ça me faisait penser à ces victoires un peu bizarres que vous allez chercher parce que l'adversaire n'est pas bon et qui font un peu un leurre dans une saison. C'est-à-dire, bon, vous avez pris 3 points. Est-ce que pour autant vous êtes plus en confiance ? Pas vraiment. Il y a eu Lyon. Lyon, pareil, je trouve qu'il y a eu du mieux, évidemment, mais je ne m'enflammerai pas non plus sur ce que j'ai vu face à Lyon, hormis sur 2 points, parce que Lyon, déjà, est d'une faiblesse abyssale. Mais ce que j'ai aimé, c'est le passage au 3-5-2, parce que tu l'as dit, Gattuso ne reste pas campé sur ses positions, il cherche la solution. Mais maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est s'il va la garder, cette solution, c'est-à-dire de ne pas se redire qu'à Lorient, il repasse à 4 derrière, pardon. Parce que là, j'ai envie de revoir cette équipe en 3-5-2. Pour rappel, 3-5-2, c'était aussi le schéma de Tudor. Et ça fonctionnait plutôt bien. Ce que j'ai bien aimé aussi, évidemment, c'est Vitinha Aubameyang. Je ne comprenais toujours pas pourquoi, depuis le début de saison, on disait que les deux ne pouvaient pas jouer ensemble. Alors moi, j'aurais même pensé à faire jouer Aubameyang sur un côté, même s'il n'a plus forcément les cannes. C'est quand même un joueur qui va plus vite que les autres. Et même à les faire jouer tous les deux en pointe, il y a quand même un joueur qui est un renard de surface qui joue pour le but dans les 5m50 et l'autre qui peut tourner autour, Vitinha Aubameyang. Donc je ne comprenais vraiment pas qu'il n'y ait pas ça. Alors peut-être que c'était aussi orienté par le mercato de Longoria qui avait une nouvelle fois tout changé, avec Sarr, avec Ndiaye, avec Correa, pour se dire il faut les faire jouer, il faut voir ce qu'il y a ça donne sur les ailes. Mais en tout cas, je trouvais ça un peu dommage de ne pas les aligner. La défense à 3, c'est la vieille recette, ça marche bien. Maintenant, il faut voir pour la série comment ça va se passer. Et là, pour le coup, la fin d'année de l'OM est plutôt pas mal, puisque alors il y a Brighton en Ligue Europa, mais derrière il y a Lorient, donc ça c'est dimanche, puis Clermont au Vélodrome, puis Montpellier.
Oui, là tu prends 9 points.
Ça peut faire 9 points. Et quand on voit le décalage au classement, Marseille est 8e avec 6 points de retard sur le 4e Lille, qui sera la première équipe qualifiée en Ligue des Champions, du moins à travers le barrage, et le podium qui a 7 points avec Monaco. Ça ressemble peut-être à, je ne vais pas dire c'est la dernière chance parce qu'il y aura la deuxième partie de championnat, mais c'est sans doute le moment pour recoller, voilà. Parce qu'en plus il va y avoir le mercato derrière, on n'est jamais à l'abri d'un chamboulement avec Longoria. Donc là pour le coup ça ressemble à quelque chose. J'espère en tout cas que Gennaro Gattuso ne va pas faire comme Fabio Grosso, changer du jour au lendemain tout ce qu'il a fait et de se dire bon bah là ça marche pas mal, on va réessayer.
Après moi je continue de penser que pour le top 3, je trouve que Monaco est bien mieux armé dans son effectif et Monaco ne joue pas de Coupe d'Europe. Ça, je pense que ça compte. Que Nice est très solide aussi et que ça va être compliqué à aller chercher. Après, ça se bagarrera peut-être avec des Lens, avec des Lille, peut-être avec des Reims, on ne sait jamais. Et peut-être que pour cette quatrième place-là, voilà. Mais le podium, moi, ça me semble un peu juste pour ce Marseille-là. Et d'autant que la Coupe d'Europe, il y a beaucoup d'adversaires qui ne jouent pas la Coupe d'Europe et que ça risque de coûter aussi des points à Marseille. Moi, ça me semble un peu juste pour le podium, mais pourquoi pas la quatrième place,
ouais. Ouais, ça peut être juste, mais encore une fois, heureusement pour Marseille, au moins au niveau comptable, ça peut. L'OM peut peut-être terminer, on ne sait jamais, à 3 points du podium ou à 4 points. Enfin, je parle la phase aller. Donc, c'est vraiment là, moi, je pense.
Serait un petit miracle quand même.
Ce serait un petit miracle, oui. Et c'est là que ça joue. Moi, j'y crois pas tellement au podium aussi. Mais bon, en tout cas, si l'OM veut se donner les moyens d'y arriver, c'est à ce moment. Et ce qui est, alors, pour l'anecdote, ce qui est un peu drôle, c'est que Jonathan Clauss, qui est peut-être le meilleur Marseillais depuis le début de saison, s'est épanoui dans une défense à 4, a retrouvé l'équipe de France, parce que Deschamps l'a vu jouer à 4, donc il est très content, et peut-être là qu'il va se retrouver dans un rôle qui lui va très bien, mais qui lui va moins en équipe de France, c'est piston.
Bon, il a suffisamment montré.
Il n'y a plus trop de danger, je pense, pour l'Euro. On aura l'air malin quand il ne sera pas dans la liste, mais en tout cas, non, a priori, ça ira, mais c'est vrai que c'est marrant de voir ce joueur, finalement, qui est beaucoup plus adaptable que ce que Deschamps pensait. D'ailleurs, il l'a dit, il a expliqué que Deschamps lui avait dit qu'il avait des doutes sur lui dans défense à 4, c'est pour ça qu'il ne l'avait pas pris lors de la dernière Coupe du Monde.
Ça nous a peut-être coûté un titre de champion du monde d'ailleurs. Ah, ça serait une bonne question. Est-ce peut-être. Qu'avec Clauss, on terminait champion du monde?
Est-ce qu'il a arrêté les pénaltys, Clauss?
Non. Mais peut-être qu'il l'a marqué.
Merci
à tous. Merci à Adrien Yo qui a été fantastique aujourd'hui. Vraiment sensationnel. Vraiment. Regardez la vidéo parce que finalement, c'est son chef-d'œuvre la vidéo.
On l'a vu opiner du chef.
Ouais, ouais. Et Dieu sait qu'il aime opiner du chef, Adrien.
Ouais. On l'a vu. Il était pendant qu'il filme, en fait, il nous regarde et il fait les gestes, vous voyez, de cinéma. On verra pas. Il fait le carré avec ses doigts et son pouce vers les plans. Là, il nous fait du Scorsese, il y a du travelling, tout ça.
Regardez les vidéos. C'est à un moment, on va les monter ces marches à Cannes, je pense.
Hein. C'est ça. Ouais, je vois pas comment.
Un autre. Merci à Quentin pour les visuels. Merci à Maxime et à son jet privé. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine.
Et merci Adrien qui sponsorise, je le redis, parce qu'il sponsorise le goûter aujourd'hui.
C'est vrai.
Il nous vend depuis tout à l'heure une surprise.
On sait pas ce que c'est, ouais.
J'ai peur que ce soit déceptif.
Moi, je sens des petits chocolats. On s'attend à
simple. Petit beurre, mais non, petit beurre, non, ça colle au palais.
Quand même. Ouais. Oh.
On veut un truc que j'aimais bien quand j'étais petit.
Les dinosaures.
Un dinosaurus. Ah ouais, ça c'est bon. Ça.
Non, c'est ça. Ah oui. Non, il a ramené les dinosaurus.
Ah oui, ça c'est bien ça.
Ah non, mais ça, moi, il y a alors rien ça, que j'aime. Ah, mais ça, les dinosaurus, mais c'est.
Ça, c'est un classique que pendant un moment j'avais oublié.
C'est incroyable, les dinosaurus.
Et que j'ai retrouvé. Et dinosaurus, c'est vraiment. C'est. Ouais, il y a le.
Il y a le goût de l'enfance déjà.
Ouais, juste que s'il faut de chocolat, ouais. Le sablé du gâteau. Ouais. C'est plutôt pas mal.
Ouais. Ah ouais, c'est incroyable.
Un truc que j'aimais bien.
Mais alors, tu sais que les dinosaures, parce que moi, maintenant j'ai des enfants, j'en rachète, il n'y a plus la petite figurine dinosaure qu'il y avait à l'intérieur. C'est la petite figurine en plastique que j'aimais bien, moi. Maintenant, il n'y a plus rien. Dans les paquets, il n'y a plus de petite figurine dinosaure. Donc bon, voilà, si quelqu'un de dinosaures nous écoute.
Moi, c'est. Mais ça dépend, il y a des phases avec ma fille et gâteau. Là, c'est plutôt tartine C'est pâte plus à tartiner.
Ouais, c'est plus... Ah, pâte à tartiner.
Ouais, ouais. Oui, mais c'est la, pas, la, pas la marque que tu connais. Voilà.
Ouais. Ouais, c'est un truc qui coûte un peu au-dessus. Tu vois.
Non, je crois pas. Non, je suis pas sûr.
Ouais, sans allergène.
Je suis pas sûr.
Tu comprends.
Ça
ouais,
va bien de dire ça.
Tu comprends. Ouais.
Mais elle est pas très gâteau, ça dépend.
Putain, il nous a ramené des dinosaures. Je suis refait là. Là, là du coup, il faut terminer l'émission. Alors, parce qu'il faut aller bouffer.
J'ai un truc que j'aimais bien quand j'étais petit.
Putain, il va
que j'ai remangé, mais qui est un peu clivant. Le Chamonix.
Ah, moi je pense que c'est là où on voit qu'il y a une différence de génération.
Non, mais ça existe encore, Chamonix.
Ah bon?
Ah bah oui, ah oui.
On dit Chamonix d'ailleurs.
Oui, mais moi.
Ça se voit que t'es pas un mec de la montagne.
Eh, ça se voit que moi je vais pas au ski, j'ai pas les moyens. Voilà. Je connais pas la montagne, moi. Moi j'ai pas, je peux pas, moi, le ski.
On arrête là ou pas?
On arrête là.
Parce qu'il est temps d'aller manger les dinosaures.
Allez.
Merci Adrien et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Salut.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.